parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette troisième journée, nous reprenons l'itinéraire de Joséphine Bakita et nous marchons dans ses pas. Elle avait dit à plusieurs reprises que quand elle serait morte, elle ne ferait peur à personne. En effet, après sa mort, tous les enfants s'approchent de son corps sans la moindre appréhension car elle semble sourire à tous. Sans que cela ne constitue un critère de sainteté, les observations effectuées après sa mort ont émerveillé les témoins. Et pourtant, son corps a beaucoup souffert, de la maladie bien sûr, mais aussi des maltraitances de sa jeunesse. Ce mardi 11 février, l'archiprêtre de la cathédrale célèbre la messe dans l'église de l'Institut, puis le corps de Joséphine est conduit au cimetière de Schio, dans le tombeau de la famille Gasparella, en signe de reconnaissance envers la défunte. Le 1er décembre 1978, Jean-Paul II signe le décret d'héroïcité de ses vertus et le 17 mai 1992, il la déclare bienheureuse. Il a encore la joie en 1995 de déclarer Joséphine Bakita, patronne du Soudan, et surtout de la canoniser à Rome le 1er octobre 2000. Elle est fêtée le 8 février, jour de son rappel à Dieu. Après sa mort, beaucoup de personnes demandent à Joséphine d'intervenir pour obtenir des grâces. Ils prient là où ils sont, ou devant la châsse où son corps est conservé, sous l'autel central de la chapelle de la Sainte Famille à Schio. S'il est vrai qu'après sa mort, elle a obtenu grâce des miracles, le miracle le plus grand, c'est peut-être elle-même. Sa fidélité silencieuse et discrète, sa confiance sans borne, qui se résume à cette phrase que l'on peut conserver comme mot d'ordre, « comme veut le maître ». Joséphine Bakita est devenue la patronne des chrétiens opprimés. Le 10 février 1993, Jean-Paul II se rend à Khartoum, capitale du Soudan, et entouré d'une foule évaluée à 1 million de personnes, il s'exclame « Bienvenue chez toi, Bakita !» Un buste de bronze avec un reliquaire de Bakita est déposé dans la cathédrale. Cette visite se fait pourtant dans un contexte difficile, car c'est l'année où le Soudan est inscrit sur la liste des pays commanditaires du terrorisme. Malgré les pressions, un tiers de la population de Khartoum vient voir le pape, accompagné par des réfugiés. Cela permet d'attirer l'attention du monde sur le Soudan, qui, depuis l'époque des Joséphines, n'a cessé de connaître des malheurs, notamment au Darfour. Cependant, malgré toutes les souffrances des Soudanais, il y a une Église bien vivante. Aujourd'hui, ce serait une erreur de croire que l'esclavage est un mal spécifique à l'Afrique. La traite des êtres humains constitue le troisième trafic criminel dans le monde après la drogue et les armes. Il est très difficile de chiffrer avec précision l'étendue de cette pratique, car les victimes n'ont pas accès aux médias. L'Organisation internationale du travail estime cependant à 25 ou 30 millions le total d'esclaves dans le monde en 2016. L'exploitation sexuelle des femmes et des enfants constitue une des formes les plus connues du travail forcé. Le mariage forcé est aussi très répandu. Une autre forme est l'esclavage domestique. Les victimes viennent en général d'Asie et d'Afrique. Les faits se déroulent en catimini et, contrairement aux idées reçues, ne concernent pas seulement le monde des diplomates et des riches orientaux vivant dans le faste. Cela se pratique aussi dans les pavillons ou les grands ensembles de banlieues. La famille religieuse de Madeleine Canossa a pris un bel essor. Les filles de la charité de Vérone, dite canossienne, fondée en 1808, s'occupe de soulager la misère et d'éduquer les populations les plus pauvres. Aujourd'hui, les 3300 canossiennes qui forment l'ossature de cette grande communauté sont présentes dans le monde entier. Joséphine Bakita est devenue la patronne des chrétiens opprimés. Elle a sûrement contribué au printemps de l'Église en Afrique, car ce continent avait besoin d'un modèle autre que les missionnaires européens, malgré le zèle et l'héroïsme de beaucoup. En Afrique subsaharienne, les catholiques qui n'étaient qu'un million en 1910 sont plus de 170 millions aujourd'hui et représentent désormais 14% des catholiques du monde. Le nombre total des chrétiens d'Afrique subsaharienne est estimé à plus d'un demi-milliard, presque un quart du nombre de chrétiens dans le monde. L'esclavage de Bakita n'est donc ni un déshonneur ni une honte, mais au contraire une identification au maître, car Jésus opère la rédemption en se faisant esclave, comme il est écrit la deuxième lettre aux Philippiens. L'impact de son témoignage est considérable, aujourd'hui plus encore qu'hier, car elle est devenue une référence incontournable dans la lutte contre tous les esclavages et aussi pour la promotion et la dignité de la femme. Son chemin vers la sainteté est à la portée de tous, car il n'est pas jalonné de dons exceptionnels. Ni haute naissance, ni argent, ni diplôme, ni éloquence, ni don intellectuel hors du commun. Joséphine était simple religieuse, dédiée aux tâches modestes. Tout compte fait, la vertu la plus manifeste qu'elle a pratiquée, c'est le pardon qui excuse tout et conduit à prier pour les persécuteurs. Elle disait « Si je rencontrais ces négriers qui m'ont enlevé, et aussi ceux qui m'ont torturé, je m'agenouillerai pour baiser leurs mains, parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. Les pauvres, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils me faisaient autant mal. Comme nous sommes habitués à faire le bien, les négriers faisaient ça. C'était leur habitude, pas de la méchanceté. Je prie beaucoup pour ces négriers, pour que le Seigneur, si bon et généreux avec moi, le soit aussi avec eux, jusqu'à les convertir et tous les sauver. » Tous ceux qui l'ont connu se souviennent d'avoir ressenti une impression très particulière, laissée par son humilité, sa simplicité et son sourire constant. Les sœurs l'estimaient pour sa bonté et son désir de faire connaître le Seigneur à tous. À demain.